nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, fête ses 50 ans en décembre 2011. Après une première émission consacrée au moment fort du CNES, qu'il s'agisse de l'installation du champ de tir à Kourou, en Guyane, du lancement de la première fusée Ariane ou encore des premiers vols habités, nous vous proposons dans cette seconde émission de nous intéresser aux résultats scientifiques du CNES. Et pour nous en parler, nous recevons de nouveau Jacques Blamont. Monsieur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Nos auditeurs vous connaissent très bien, mais je me permets quand même de redonner vos fonctions. Vous êtes membre de l'Académie des sciences en France, mais également membre de la National Academy of Science des États-Unis et membre de l'Académie des sciences indiennes, professeur émérite à l'Université Paris 6. Vous êtes actuellement conseiller du président du CNES et puis vous avez été bien sûr le premier directeur scientifique et technique du CNES en 1962. Alors avant de démarrer sur les résultats scientifiques du CNES qui sont nombreux et on a dû faire malheureusement un choix dans tout ce que nous allons évoquer dans quelques instants, peut-être pourriez-vous nous rappeler les trois modes de fonctionnement du CNES, monsieur Blamont ?
Volontiers. Donc le CNES est l'agence spatiale française, c'est-à-dire que le CNES est chargé de proposer au gouvernement des actions dans le domaine de l'espace et de les réaliser une fois qu'elles ont été, disons, choisies par le gouvernement. Le CNES a trois modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode national, c'est-à-dire là, on utilise un lanceur français et des satellites français. Le second mode est le mode de coopération bilatérale, par exemple avec les États-Unis ou avec l'Union soviétique. Dans ce cas-là, les deux partenaires choisissent les domaines de leur participation. Par exemple, ça peut être un lancement français ou américain, un satellite américain ou français, des instruments qui peuvent être américains ou français. Même schéma que nous avons connu longtemps avec l'Union soviétique et puis avec d'autres pays comme l'Inde, le Japon. Troisième mode de fonctionnement, le mode européen. Il existe une agence spatiale européenne.
L'ESA.
L'ESA, ou l'ASE, comme vous préférez. Les crédits de l'ASE, ou de l'ESA, passent par les crédits du CNES. Donc le CNES est le représentant de la France au sein de l'ESA. Donc l'ESA fait partie de la politique du CNES et de la France. Il n'y a aucune compétition, mais au contraire, une étroite collaboration.
Une coopération ?
C'est plus qu'une coopération, c'est très intime. Ceci est particulièrement important parce que peu à peu, les grandes missions scientifiques sont devenues de plus en plus coûteuses et en dehors, tout à fait en dehors des moyens de la France. De sorte qu'on peut dire que la majorité, pratiquement toutes les missions actuelles du CNES se font au moyen de coopération avec l'Agence spatiale européenne.
Des missions, mais également aussi une conception politique de la recherche spatiale.
C'est-à-dire ?
Eh bien, la conception politique française de la recherche spatiale est aussi un point important du CNES.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les missions dont vous voulez que je vous parle aujourd'hui, mais le CNES s'est chargé d'autres tâches. D'abord, comme j'ai indiqué, une tâche programmatique, c'est-à-dire qu'il doit proposer au gouvernement français les actions qu'il considère nécessaires, souhaitables. Et puis, deuxièmement, il doit développer les moyens spatiaux nationaux. Moyens spatiaux nationaux, ça veut dire d'une part les lanceurs, et vous l'avez dit tout à l'heure, Ariane, qui a suivi Diamant. Dans le cas d'Ariane, c'est une fusée payée par l'Europe, mais qui a été confié au maître d'ouvrage CNES. Donc c'est une opération très CNES, puisque le CNES a eu la responsabilité de l'ensemble du programme Ariane, c'est-à-dire que le CNES verse les crédits à l'Agence spatiale européenne, qui les lui retourne. Et c'est assez important de savoir que la France a payé 66% du développement d'Ariane 1 et 50% du développement d'Ariane 5. C'est dire que le CNES joue un rôle majeur dans le développement des lanceurs en Europe. Et il joue un rôle majeur aussi en assurant l'existence et le fonctionnement du champ de tir. Car on ne peut pas séparer les lanceurs européens du champ de tir. Il faut parler d'un complexe Ariane-Kourou, non pas d'un système Ariane. Mais ce n'est pas tout. Les moyens spatiaux comportent aussi des satellites. Et la technologie des satellites a été d'abord développée par le CNES, mais le CNES maintenant s'est mis en retrait. Il soutient l'industrie française, et l'industrie française comprend deux grands maîtres d'œuvre qui sont parmi les plus importants du monde à l'heure actuelle. Voilà donc l'œuvre du CNES est considérable au point de vue spatial, en dehors des missions.
Alors on va, si vous voulez, notre programme est bien chargé, on va aborder une part des résultats scientifiques du CNES. En première partie, vous souhaitiez aborder la place de la géodésie spatiale.
Oui, nous avons, vous et moi, fait le tour de l'œuvre scientifique du CNES et nous avons trouvé 8 grandes rubriques différentes. Nous ne pouvons en traiter que 2 ou 3. Et donc nous avons choisi tout d'abord la géodésie. C'est une affaire qui est inconnue du public, mais qui a été très importante, qui a consisté essentiellement à étudier la forme du globe terrestre au moyen de mesures à très haute précision des trajectoires de nos satellites. Nous avons été les premiers à obtenir ces trajectoires au moyen de faisceaux laser qui étaient réfléchis par les satellites et qui permettaient de mesurer la distance entre le laser et le satellite avec une précision centimétrique. Cette affaire-là, qui a créé véritablement une activité d'importance mondiale avec nos tout premiers satellites diamants, s'est continuée par l'obtention de premiers échos sur la Lune grâce à la coopération avec l'Union soviétique qui avait posé sur la Lune le fameux Lunacode, un véhicule mobile sur lequel étaient placés des réflecteurs français qui permettaient d'obtenir des échos et de mesurer
la distance,
des échos laser et de mesurer la distance.
Entre la Terre et la Lune.
Alors ça, c'est une des affaires qui sont maintenant reprises au plan mondial, mais qui ont eu leur importance considérable d'initiation et de découverte.
Pour ce qui est justement de cette mesure de la distance Terre-Lune, on se situe à cette époque dans les années 70. Est-ce que la géodésie spatiale est encore un domaine dans lequel le CNES est encore une part importante à jouer?
Oui, parce que le CNES a mis en place un système appelé DORIS qui permet d'une façon tout à fait différente, qui n'utilise plus du tout le laser, de mesurer disons, l'altitude des satellites avec une précision de l'ordre du centimètre. Et donc, ce genre de mesure est encore utilisé pour étudier la distribution des masses dans le globe terrestre et, par exemple, même l'existence de masses d'eau souterraine.
Donc ça, c'est pour ce qui concerne la géodésie spatiale. Il y a toute une partie consacrée aussi à la collecte de données, qui est aussi une
part
importante.
Alors ça, c'est un deuxième aspect de l'œuvre scientifique du CNES. Nous avons, en 1971, en collaboration bilatérale avec la NASA, lancé les premières mesures, les premières collectes de données par satellite. Et ça, c'est un domaine que le public connaît très bien, puisque ces données peuvent être, par exemple, émises à partir d'un animal sur lequel on place un petit émetteur, et cet émetteur envoie un signal qui est reçu par les satellites. Donc là, on collecte des données recueillies par l'animal. Alors ceci est devenu, en dehors, disons, de la zoologie, est devenu très important pour des mesures variées, depuis qui peuvent être la hauteur d'eau dans les lacs ou dans les rivières, etc. Donc cette collecte de données s'étend à un domaine également très connu du public, c'est celui du sauvetage. Puisque les balises, fameuses balises Argos, du nom du programme CNES, un programme qui a été réalisé avec la NASA, ces balises maintenant sont placées pratiquement à bord de tous les vaisseaux de plaisance et ont permis de sauver jusqu'à présent près de 25 000 vies.
Alors un autre domaine où les auditeurs aussi comprendront tout l'intérêt de la recherche spatiale et de ses applications, c'est le domaine de la météorologie.
Le CNES n'a pas eu un programme météorologique par lui-même, mais il a forcé l'Agence spatiale européenne à mettre en orbite le satellite Meteosat qui avait été étudié par le CNES, puis accepté par nos partenaires européens. Et vous le savez, le satellite Meteosat est la suite, il y en a maintenant plusieurs générations ultérieures, est un des moyens principaux de la prévisions météorologiques actuelles. Rappelez-vous qu'avant l'ère spatiale, la météorologie avait un horizon de l'ordre de quelques heures. Tandis que nous savons maintenant que nous avons des prévisions à plusieurs jours, 3, 4, 5 jours, qui sont très bonnes et précises, grâce en grande partie aux moyens spatiaux dont Météosat est l'un d'entre eux. Car il y a un grand nombre de satellites géostationnaires comme Météosat qui sont mis en orbite par, disons, nos amis étrangers. Le tout forme un réseau. Mais Météosat a été un des premiers, des plus réussis.
Et j'imagine que c'est un domaine sur lequel la recherche est très incisive. C'est un domaine qui intéresse beaucoup.
C'est un domaine où la recherche est très importante. Elle s'étend évidemment, comme vous le savez, à la climatologie. Mais oui, n'importe comment, à l'heure actuelle, les gains fournis à l'économie mondiale par les satellites météorologiques se comptent en centaines de milliards.
Alors, on parle de la météorologie, mais il y a aussi le domaine de l'océanographie.
Le CNES a connu là son plus grand succès. En 1992, un programme coopératif entre le CNES et le laboratoire américain où j'ai longtemps travaillé, Jet Propulsion Laboratory, a abouti à la mise en orbite d'un satellite qui s'appelait Topex et qui mesurait l'altitude du satellite au-dessus de la mer. Il le mesurait avec une précision de l'ordre du centimètre. Ces mesures permettent d'obtenir, et disons, l'altitude de tous les niveaux de la mer, car la mer n'est pas horizontale, contrairement à ce qu'on peut croire, sur tout le globe. Et une série de découvertes très importantes ont été faites par ce satellite, si importantes qu'il a été, disons, continué, le programme était continué par un satellite du même ordre, qui fait la même chose, qui s'appelle Jason. Et nous en sommes maintenant à Jason 2, et nous négocions maintenant la mise en orbite de Jason 3 pour les années futures. Une des applications très importantes de Topex Jason, c'est la mise en évidence de ce qu'on appelle le phénomène El Niño, qui est une zone chaude de l'océan Pacifique qui se développe à peu près tous les 2 ou 3 ans, et qui commande pratiquement le climat mondial. Cette affaire de El Niño a une immense importance, parce qu'elle permet de comprendre les évolutions météorologiques à quelques mois, et c'est Topex puis Jason qui en ont fait véritablement la cartographie et permis d'étudier l'évolution. Mais pour vous donner un autre exemple, Topex, Jason permettent d'obtenir des modèles de la distribution de température en profondeur de la mer, c'est-à-dire plusieurs centaines de mètres. Et cette mesure de température aboutit à la réalisation de modèles complets de la mer, qui jouent un rôle essentiel pour la navigation des sous-marins. Donc Topex Poseidon a des conséquences, disons, de défense. Le programme était donc, il est toujours franco-américain. Pour Topex, le premier, le satellite avait été fabriqué aux États-Unis avec un instrument français dont je vais reparler, et il a été lancé par Ariane. Jason, c'est le contraire. Il a été lancé par une fusée américaine, c'était un satellite français. Là, nous sommes donc en présence d'une coopération extrêmement étroite, d'un cadre bilatéral dont j'ai parlé tout à l'heure.
Puisque en vous entendant, et puis cette émission est consacrée aux résultats scientifiques du CNES, on se rend bien compte des applications pratiques fortes et bien sûr des applications industrielles. Est-ce que c'est un point important du CNES ou c'est un point général pour tout ce qui est du domaine de la recherche spatiale un peu partout dans le monde?
C'est général. Le CNES pratique là une politique d'ouverture très grande avec les industriels, mais c'est le cas aussi des États-Unis. On ne peut peut-être pas dire que ça soit vrai partout. Par exemple, en Russie ou en Inde, ce n'est pas comme ça. C'est les agences spatiales qui s'en occupent. Mais enfin, nous, nous avons suivi le modèle américain comme pratiquement dans toutes les affaires spatiales.
Alors, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. On voulait quand même terminer cette émission par la télédétection, qui est aussi un élément important.
Alors, c'est un des grands points forts du CNES. C'est le programme SPOT, qui en est maintenant à SPOT 5, qui va être remplacé par Pléiade dans quelques mois. Alors, il s'agit d'obtenir en permanence des images en plusieurs longueurs d'onde avec une résolution qui est de l'ordre de 1 à 2 mètres. Là, c'est un grand succès technique. mais aussi un succès d'application, parce qu'une grande quantité de sciences de la Terre utilisent les données SPOT. Par exemple, non seulement la cartographie, qui en est révolutionnée, mais aussi l'hydrologie, la glaciologie, même l'océanographie, l'étude des pôles. Imaginez tout ce que l'on peut regarder, mais je vais faire une petite parenthèse, non pas pour vous parler de SPOT, mais pour vous parler d'un autre programme, qui est un programme de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelait EARTH, et qui portait une cartographie, non pas dans le visible, comme SPOT, mais radar. La différence, c'est que les images radar sont cohérentes, de sorte que l'on peut faire une compilation, une addition de deux images différentes et d'en faire, obtenues à des moments différents, et d'en faire une sorte de mosaïque, voir en particulier s'il y a quelque chose qui a changé entre la première image et la deuxième image. Bien, effectivement, ceci a été brillamment fait avec EARTH sur des régions volcaniques, et c'est ainsi qu'a été montrée la dilatation de grands volcans, comme par exemple l'Etna, qui se dilate de plusieurs dizaines de centimètres. Et ce genre de mesure, il se dilate quand il y a une activité volcanique, ce genre de mesure permet de prévoir l'activité volcanique. Mais enfin, c'est simplement une parenthèse, si je reviens à SPOT, pour vous dire qu'il y a également, dans le programme français du CNES, des applications très importantes de la télédétection aux affaires militaires. Et ceci a donné naissance à des satellites qui ressemblent beaucoup à SPOT, qui s'appelle Helios, et qui jouent un rôle majeur dans la stratégie militaire européenne.
Donc, tout ce qui est du domaine de la télédétection, le CNES est très en phase dans ce domaine-là. On n'a pas parlé de la géolocalisation, qui est un point sur lequel...
Oui, c'est-à-dire que nous n'avons pas non plus parlé de physique solaire, ni d'astronomie, ni des choses qui m'ont intéressé particulièrement, personnellement, c'était l'exploration planétaire. Dans ces domaines, le CNES a beaucoup apporté, mais il a tendance aujourd'hui à s'appuyer beaucoup sur l'Agence spatiale européenne parce que les missions sont devenues très coûteuses et très difficiles. Le CNES y joue un rôle important. Par exemple, vous voyez le lancement d'il y a deux ou trois jours de la mission Curiosity de la NASA pour Mars emporte des nombreuses expériences françaises payées par le CNES.
Et je vois que vous y tenez, vous tenez à cette information sur le fait que ce soit en partie financé par le CNES.
Oui, parce que le CNES ne fait rien, il fait faire. C'est-à-dire qu'il paye les gens qui participent à son programme, qu'ils soient industriels ou scientifiques.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Blamont. J'invite nos auditeurs à écouter une première émission en votre compagnie sur justement les moments forts du CNES et auxquels vous avez pleinement contribué, puisque vous étiez là dès les débuts. Et puis également d'autres émissions en votre compagnie que l'on retrouve sur le site de canalacademy.com. Merci à vous d'être venu et puis à bientôt. La porte vous est ouverte pour d'autres sujets en notre compagnie. Merci à vous.